Pendant quelques secondes, elle resta immobile, soulagée d'avoir sauvé son emploi. Elle s'autorisa alors à repenser à son rendez-vous de ce soir et l'angoisse la saisit. Pour se rassurer, elle chercha des yeux son reflet dans la surface miroitée de la vitre, mais l'image qu'elle aperçut produisit l'effet contraire. Elle était affreuse. Ses cheveux étaient abîmés, leur couleur terne, sa coupe informe. Ce n'est pas avec une tête pareille qu'elle parviendrait à plaire à Matthew Shapiro. Elle soupira et prit soudain conscience de la présence du stagiaire. « Écoute, je vais être obligé de signaler ta faute au chef du personnel. C'est très grave ce que tu as fait. »«
Non, s'il vous plaît !»
Subitement, l'adolescent se liquéfia et fut pris d'une crise de larmes. « Pleure, tu pisseras moins !» soupira-t-elle. Elle lui tendit néanmoins un mouchoir et patienta jusqu'à ce qu'il ait cessé ses gémissements. « Quel âge as-tu, Romuald ?»«
16 ans et demi. »«
D'où viens-tu ?»«
De Beaune, au sud de Dijon, c'est... »«
Je sais où est Beaune. Certains des meilleurs vins français viennent de ta région. »«
Depuis quand travailles-tu à l'Impérator ?»«
15 jours, » dit-il en enlevant ses lunettes pour frotter ses paupières. « Et ça t'intéresse, ce boulot ?» Il secoua la tête et pointa du menton l'écran de son PC. « La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est ça. »«
Les ordinateurs ?
Qu'est-ce que tu fais dans un restaurant, alors ?» Il lui confia avoir suivi sa petite amie qui, après son bac, était partie travailler à New York comme fille au pair.
« Et cette fille t'a laissé tomber ?»
devina Emma. Un peu honteux, il acquiesça en silence.
Tes parents savent que tu es aux États-Unis au moins ?
Oui, mais en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter, affirma-t-il en restant évasif.
Mais comment as-tu réussi à te faire embaucher ici à New York ? Tu n'as pas de papier pour travailler ? Tu n'es pas majeur ?
Je me suis bricolé un visa de travail temporaire en me vieillissant un peu.
Bricoler un visa ?
Pas étonnant qu'il craigne la police et qu'il ne souhaite pas attirer sur lui l'attention de la DRH. Emma regarda l'adolescent avec un mélange de fascination et de compassion. «
Où as-tu appris à faire ça, Romuald ?»
Il haussa les épaules.
« On peut faire beaucoup de choses si on sait utiliser un ordinateur. »
Comme elle insistait, il lui raconta plusieurs anecdotes. À 13 ans et demi, Romuald avait passé quelques heures en garde à vue pour avoir diffusé sur Internet une traduction pirate du dernier tome d'Harry Potter. Un peu plus tard, c'est le site Internet de son lycée qu'il avait piraté, s'amusant à changer ses notes et à envoyer des messages loufoques sur les boîtes mail des parents d'élèves. En juin dernier, il avait déniché en quelques clics les sujets du bac scientifique pour offrir une mention à sa petite amie. Enfin, début juillet, il avait brièvement détourné le compte Facebook du président français Nicolas Sarkozy. Une blague potache qui n'avait pas été du goût de l'Élysée. Les autorités étaient parvenues à remonter jusqu'à lui. Au vu de son dossier, il avait écopé d'une peine avec mise à l'épreuve, assortie du conseil très ferme de se tenir désormais éloigné d'un ordinateur. En l'écoutant parler, Emma eut une idée fulgurante.
« Installe-toi devant ton écran, » ordonna-t-elle.
Il s'exécuta et tapa sur une touche du clavier pour mettre l'appareil sous tension. Elle tira une chaise pour s'asseoir à côté de lui.
« Regarde-moi bien dans les yeux, Romuald. »
Nerveux, l'adolescent chaussa ses lunettes, mais ne soutint son regard que 2 secondes.
« Vous êtes très jolie, »
bredouilla-t-il.
« Non, justement, je suis affreuse. Mais tu vas m'aider à arranger ça, » dit-elle en pointant le moniteur.
Elle tapa l'adresse web du site d'un salon de coiffure. À l'écran, des lettres scintillantes dansaient sur un fond clair et dépouillé. « Akihiko Imamura, Hairstyle. » Akihiko Imamura est un Japonais qui a révolutionné l'univers de la coiffure, expliqua-t-elle. À Manhattan, c'est le coiffeur qui compte, le maître du ciseau et de la couleur. Angelina Jolie, Anne Hathaway, Kate Blanchett, les plus grandes stars se font coiffer chez lui. Et pendant la Fashion Week, tous les créateurs essaient de l'embaucher pour leur défilé. On dit que c'est un véritable magicien et j'ai au moins besoin de ça pour être présentable ce soir. Le problème, c'est qu'il y a une liste d'attente de 2 mois pour prendre rendez-vous. Romuald avait compris ce qu'Emma attendait de lui. Déjà, il s'activait pour essayer de pénétrer dans le système de réservation. Imamura a 3 salons à New York, continua-t-elle pendant que le geek tapait sur son clavier avec une vitesse hallucinante. 1 à Soho, le 2e à Midtown
et le dernier dans l'Upper East Side. C'est là qu'il officie cet après-midi, annonça Romuald en affichant la liste des rendez-vous du coiffeur. Impressionnée, elle se pencha sur l'écran. C'est le même principe que lorsque vous réservez en ligne une table pour un restaurant, expliqua le jeune Français. Tu peux modifier les noms? Bien entendu, quel intérêt sinon? À quelle heure voulez-vous y aller? 17h, c'est possible? Un jeu d'enfant. Il inscrivit le nom d'Emma à la place de la cliente initialement prévue, sans oublier d'envoyer un message à cette dernière pour reporter son rendez-vous. La jeune sommelière n'en croyait pas ses yeux. « Bien joué, Callaghan !» s'enthousiasma-t-elle en l'embrassant sur la joue. « Toi aussi, tu es un magicien !» La bouille ronde de Romuald s'empourpra. « C'était facile, » dit-il, modeste. « Tu n'as pas l'air comme ça, mais tu es drôlement futé, » dit-elle en ouvrant la porte pour rejoindre son poste. « Bien entendu, tu gardes tout ça pour toi, capito ?» Boston, boutique Brooks Brothers, 15h30. « Tu es vraiment très élégant, » jura April. « La coupe classique, c'est ce qui te va le mieux. Des épaules bien dessinées, une taille étroite, mais le torse libéré. C'est chic et intemporel. » Matthew regarda son reflet dans le miroir en pied de la boutique de luxe. Rasé de près, les cheveux courts, sanglés dans une veste ajustée au millimètre, il était méconnaissable. « Depuis quand n'ai-je plus porté de costume ?» La réponse claqua dans sa tête, désagréable et perturbante. « Depuis mon mariage. »« Pour un peu, j'en virerais ma cutie !» insista April en lui fermant un bouton. Il se força à sourire pour la remercier des efforts qu'elle faisait pour lui. « On va compléter ta tenue avec un manteau droit en laine et on file à l'aéroport, » affirma-t-elle en regardant sa montre. « Il y a toujours des embouteillages à cette heure-ci, et il est hors de question que tu rates ton avion. » Après avoir payé leurs achats, ils rejoignirent la Camaro et April mit le cap sur Logan Airport. Matthew fut silencieux pendant tout le trajet. Au fur et à mesure que la journée avançait, il avait perdu son entrain et sentait son enthousiasme s'étioler. À présent, cette rencontre avec Emma Lovenstein ne lui semblait plus une aussi bonne idée que la veille au soir. À bien y réfléchir, ce rendez-vous n'avait même aucun sens. Il résultait d'une décision prise sur un coup de tête alors qu'il avait bu de l'alcool et pris des médicaments. Il ne connaissait pas cette femme, tous les deux s'étaient laissés griser par un bref échange épistolaire et une rencontre physique ne pourrait qu'entraîner une déception mutuelle. La Chevrolet s'engagea dans la bretelle menant au parking des pauses minutes. April fit une courte halte devant le terminal pour laisser à son ami le temps de sortir de la voiture. Alors qu'il se donnait une accolade, la galeriste essaya de trouver des mots encourageants. « Je sais très bien à quoi tu penses, Matt. Je sais très bien que tu as peur et qu'à présent tu regrettes de t'être engagé. Mais je t'en supplie, va à ce rendez-vous. » Il acquiesça de la tête, claqua la portière derrière lui et récupéra son sac dans le coffre. Il adressa à son ami un dernier salut avant de pénétrer dans le bâtiment. Il traversa rapidement le hall. Comme il s'était enregistré en ligne, il passa les contrôles de sécurité et patienta dans la salle d'embarquement. Au moment de se lever pour monter dans l'avion, il fut saisi par le doute puis par la peur. Il transpirait, d'innombrables pensées contradictoires s'entrechoquaient dans sa tête. Un bref instant, le visage de Kate lui apparut avec une netteté stupéfiante, mais il refusa de culpabiliser, cligna des yeux plusieurs fois pour chasser cette image et présenta son billet à l'hôtesse. Magasin Bergdorf Goodman, 5e avenue, 16h15. Un peu perdue, Emma déambulait parmi les stands du grand magasin new-yorkais. Ici, tout était intimidant, depuis le grand bâtiment en marbre blanc jusqu'à l'apparence sophistiquée des vendeuses, belles comme des mannequins, qui vous donnaient l'air minable. Au fond d'elle, Emma pensait qu'un magasin comme ça, dans lequel on ne demandait pas les prix, dans lequel il fallait être beau, riche et sûr de soi, ne serait-ce que pour essayer un vêtement, n'était pas fait pour elle. Mais aujourd'hui, elle se sentait capable de surmonter son inhibition. C'était irrationnel, mais elle croyait beaucoup en ce rendez-vous. Cette nuit, elle n'avait presque pas dormi. Ce matin, impatiente, Elle s'était levée tôt et était restée plus d'une heure à passer en revue sa garde-robe pour trouver une tenue qui la mette en valeur. Après de multiples essayages et doutes, elle avait fini par se décider pour un ensemble qui lui allait plutôt bien. Un corsage chocolat, brodé de fil cuivré, et une jupe crayon, taille haute, en soie noire, qui faisait son effet. Pour compléter sa tenue, elle avait besoin d'un manteau digne de ce nom, et le sien n'était qu'une vieille et horrible moquette informe. Depuis qu'elle était dans le magasin, ses pas la ramenaient toujours vers ce magnifique trois-quarts en brocart. Elle palpa l'étoffe de soie, rehaussée de dessins brochés d'or et d'argent. C'était tellement beau qu'elle n'osait même pas l'enfiler. « Je peux vous aider, madame ?» demanda une vendeuse qui avait repéré son manège. Emma demanda à essayer le manteau. Il lui allait à ravir, mais il coûtait 2 700 $. C'était une folie qu'elle n'avait absolument pas les moyens de s'offrir. À première vue, son salaire était correct, sauf qu'on était à Manhattan et que tout était hors de prix. Surtout, une bonne partie de ses économies passait dans les séances hebdomadaires de psychanalyse. Une dépense vitale. Margaret Wood, sa psychothérapeute, l'avait sauvée lorsqu'elle était au plus mal. Elle lui avait appris à se protéger, à ériger des barrages pour ne pas se laisser engloutir par la peur ou la folie. Et là, elle se mettait en danger. Emma se raisonna et ressortit de la cabine d'essayage. « Je ne vais pas le prendre, » dit-elle. Satisfaite de ne pas avoir cédé à son impulsion, elle se dirigea vers la sortie du magasin. En jetant un dernier coup d'œil au rayon des chaussures, elle contempla avec admiration une paire d'escarpins Brian Atwood en cuir rose poudré. Le modèle d'exposition était à sa pointure. Elle glissa son pied dans la chaussure et se transforma en cendrillon. En piton vieilli, les escarpins avaient des reflets violets et des talons laqués vertigineux. Le genre de chaussure capable de sublimer n'importe quelle tenue. Oubliant ses bonnes résolutions, Emma sortit sa carte de crédit pour régler le prix du rêve, 1 500 $. Avant de passer à la caisse, elle revint impulsivement sur ses pas pour acheter le manteau en brocart. Bilan de cette escapade shopping, 1 mois et demi de salaire parti en fumée en quelques minutes. En sortant sur la 5e avenue, Emma fut saisie par le froid. Le corps transi, elle noua son écharpe et baissa la tête pour se protéger du vent. Mais la morsure était trop vive. Un souffle glacial la congelait sur place, anesthésiant son visage, engourdissant ses membres. Ses yeux pleuraient, ses joues la brûlaient. Elle n'eut pas le courage de continuer à pied. Elle s'avança sur le bord du trottoir pour héler un taxi, donna au chauffeur l'adresse du salon de coiffure en lui demandant de faire d'abord un détour par le Rockefeller Center où elle laissa au portier de l'Imperator le sac contenant son vieux manteau et ses anciennes chaussures. Le salon de coiffure d'Akaiko Imamura était un espace vaste et lumineux en plein cœur de l'Upper East Side. Murs beige, étagères en bois blond, grand canapé en cuir, console transparente ornée d'orchidées. Emma donna son nom à l'hôtesse d'accueil qui vérifia le rendez-vous sur sa tablette tactile. Tout était en ordre. La manipulation informatique de Romuald avait fonctionné. En attendant le maître, un assistant lui lava les cheveux, prenant le temps de masser délicatement son cuir chevelu. Sous l'effet des doigts agiles, Emma se détendit, oubliant ses dépenses, sa fébrilité et ses soucis, pour s'abandonner voluptueusement au confort douillet et raffiné de l'endroit. Puis, Imamura fit son entrée et la salua, le dos plat et le regard vers le bas. Emma sortit de son sac une photo de Kate Beckinsale qu'elle avait découpée dans un magazine. « Vous pouvez me faire quelque chose dans ce genre ?» Imamura ne s'intéressa pas aux clichés. À la place, il observa longuement le visage de sa cliente et murmura quelques mots en japonais à son collaborateur, spécialiste de la coloration. Puis il s'arma d'un ciseau et commença à couper quelques longueurs. Il travailla une 20aine de minutes avant de passer la main au coloriste qui appliqua une audacieuse couleur au burn, des racines jusqu'aux pointes. Une fois la teinture terminée, Imamura rinça lui-même les cheveux d'Emma et reprit l'initiative sur sa coupe. Mèche par mèche, il tortilla les longueurs sur de gros rouleaux et sécha l'ensemble avant de les délier pour retravailler la coiffure avec ses doigts. Le résultat était stupéfiant.
Ses cheveux étaient relevés en un élégant chignon torsadé. Une coupe délicate et sophistiquée qui rendait son visage lumineux et faisait ressortir ses yeux clairs et sa féminité. Emma se rapprocha du miroir, fascinée par sa nouvelle image. Quelques mèches rebelles et ondulées s'échappaient du chignon et rendaient la coiffure plus naturelle. Quant à la couleur, elle était tout simplement parfaite. C'était mieux que Kate Beckinsale. Jamais elle n'avait été aussi belle. C'est donc le cœur léger qu'elle prit son taxi pour se rendre dans l'East Village. Dans la voiture, elle sortit sa trousse de maquillage et compléta sa tenue d'un peu de blush rosé, d'un voile doré sur les paupières et d'une touche de rouge à lèvres corail. Il était 20h01 lorsqu'elle poussa la porte du numéro 5, ce petit restaurant italien au sud de Tompkins Square Park. Le vol Delta 1816 se posa à l'aéroport Kennedy avec quelques minutes de retard. À l'arrière de l'avion, Matthew regarda nerveusement sa montre. 19h18. À peine débarqué, il se rua sur la file des taxis et patienta une dizaine de minutes pour avoir une voiture. Il donna l'adresse du restaurant au chauffeur et, comme dans un film, lui promit un bon pourboire s'il arrivait à l'heure. À New York aussi, il faisait incroyablement doux pour un mois de décembre. Il y avait de la circulation, mais pas autant qu'il se l'était imaginé. Assez rapidement, le Yellow Cab parvint à s'extraire du Queens et à rejoindre le Williamsburg Bridge avant de se faufiler dans les petites rues de l'East Village. Il était 20h03 lorsque la voiture s'arrêta devant le numéro 5. Matthew inspira profondément. Il était à l'heure. Peut-être même arriverait-il le premier. Il régla sa course et sortit sur le trottoir. Il se sentait à la fois nerveux et excité. Il respira de nouveau pour retrouver son calme et poussa la porte du restaurant italien.